Chapitre 2 Les visiteurs de nuit. Nous étions, Martin, Pendant-Humain, Prosper et moi, étendus dans l'herbe assez haute qui poussait à son gré dans le fossé bordant la route. Déjà une fois, quand nous avions assisté à la bataille entre les bateliers, nous nous étions cachés dans un fossé comme celui-ci. Mais cette fois, comme nous devions faire une station plus longue, Martin Dumas, en homme prudent, avait organisé la séance. Nous avions chacun une sorte de sac caoutchouté de couleur gris-bleu dans lequel nous étions entrés. Le sac nous arrivait à la hauteur de la poitrine. Ce que, par-dessus tout, il faut redouter dans des expéditions de ce genre, me dit Martin Dumas, c'est l'humidité. Oui, l'humidité est d'ailleurs l'ennemi de tout le monde et de toute chose. Parfaitement. La rosée qui est nécessaire aux plantes parmi lesquelles nous allons vivre une ou deux heures serait pour nous absolument désastreuse. Je le crois sans peine. Dans un rien de temps, nous serions mouillés, pénétrés jusqu'à la moelle, et de plus, nous gagnerions des douleurs, des rhumatismes, sans aucun profit. Bien au contraire. Sans compter le rhume de cerveau et l'inévitable éternuement qui révélerait notre présence, fatalement. Or, vous n'êtes pas, vous, court-il, entraîné comme nous à réprimer l'éternuement, à ne pas laisser un atchoum intempestif faire explosion. Mais en effet, j'étourdis facilement et très fort. Voyez-vous le désastre si dans le calme silence de cette nuit sereine éclatait votre atchoum? Ah oui, mon atchoum vaudrait une attention pour les autres. Et nous aurions perdu notre temps dans les sphères mouillées. Et c'est pour cela, parce que je suis persuadé qu'il faut, autant qu'on le peut, empêcher le mal de venir, sachant combien on a de difficultés à l'atténuer seulement quand il est venu, que j'ai pensé à prendre ces précautions dont nous nous trouverons très bien, n'est-ce pas? Absolument. Et comme nous sommes à l'affût, nous voilà équipés de même que les chasseurs qui guettent le malheureux gibier. Ce sac de caoutchouc nous préserve de l'humidité d'abord, mais aussi d'un autre ennemi, des gens à l'affût. Duquel? Mais d'un plus petit que soi, que l'on n'en a pas besoin. Mais qui est? Et qui sont plutôt les insectes indiscrets, qui sans retenue s'infiltrent dans nos effets et viennent d'exercer leurs mandibules acérées sur nos malheureux épidermes. Mais en effet, dès qu'on se couche dans l'herbe, ils semblent pousser comme par enchantement sous vous. Oh, rien de plus agaçant, rien contre quoi l'homme soit le moins armé. Et c'est fort malheureux. L'homme est de force à endurer une douleur énorme sans bouger, sans se trahir par un mouvement, sans pousser même un soupir. Mais il n'est pas assez fort pour supporter ce supplice que lui infligeraient ces animaux, lui donnant assaut au moment même où un rien révélerait sa présence. Aussi, grâce à ce sac caoutchouté, sommes-nous parfaitement garantis contre l'audace de ces terribles petites, Martin Dumas ajouta. Et en plus, le manteau en poil de chameau sous lequel nous nous roulons est quoique d'une légèreté extrême, d'une chaleur merveilleuse. C'est délicieux. Oh, je crois que nous sommes bien garantis contre le froid, l'humidité, les animaux, et que nous pourrons nous tenir ici dans l'herbe à l'affût sans trop souffrir. Pour ma part, je me trouve très bien. Tant mieux, car nous pouvons, oh, et je le crains bien, être forcés de nous tenir ici dans l'herbe pendant quelques heures. Nous n'y voyons aucun mal, dit Prosper. Mais qui vous fait dire que nous resterons ainsi tant de temps? Demandai-je à Martin Dumas. Mais la nuit? Comment la nuit? Oui, c'est elle qui est trop belle. La belle étoile l'est trop également. Je crois que nous serons forcés de veiller jusqu'au jour et qu'il nous faudra revenir demain. Si la nuit est belle encore, ce sera pour après-demain. Ah oui, alors jusqu'à ce que nous ayons une vilaine nuit. Précisément. Mais pourquoi cela, mon cher Courville? Parce que les beaux coups ne se font jamais par les belles nuits. Vous allez comprendre. D'abord, la nuit claire permet de voir. Évidemment. La nuit sans vent, sans bruit, permet d'entendre. J'y suis. Je sais, mais Prosper et moi, nous savons qu'on doit tenter d'entrer cette nuit dans la villa de notre ami. Et on veut surprendre dans son sommeil, non seulement Martin Dumas, mais son second, mais son ami, ajouta Prosper. Oh, oh, oui, on veut empêcher ceux qui prirent une part au combat sur le rocher de la forêt de parler, de divulguer le fait, d'agir, de reconnaître les adversaires. C'est pour cela que mon mannequin repose dans mon lit. De même qu'un faux prospère dans le lit de prospère. Et un Martin Dumas en cire dans celui de Martin Dumas. Oui, toute la journée, Philippe et moi, nous nous sommes promenés partout où on pouvait nous voir. Nous sommes bien montrés à ceux qui nous épient, à ceux qui veulent nous faire disparaître. Jamais on n'a vu de peintre se promener autant. Après la peinture à la nuit, la peinture ambulante. Nos ennemis ne pouvaient douter de notre présence ici. Oui, ils vous suivaient. Ils vous ont vu pénétrer à la villa à la tombée du soir. De plus, ils suivaient à Paris mon ami Courville. Ils sont même montés avec lui en chemin de fer. Ils lui ont offert gentiment des cigarettes. Donc, ils pouvaient croire que ce soir, il leur serait facile de réussir leur coup. Ils nous tenaient tous à leur merci, mais voilà, cette magnifique nuit les dérange dans leur projet. Ils ne travaillent pas en beauté. Pour opérer sans trop de risques, avec le plus de chance, cette partie très dangereuse, il fallait un autre temps que celui-ci. Superbe, beau, bon pour les artistes, les poètes, mais très mauvais pour les malfaiteurs. Amateurs d'égouts, de souterrains. Il faut pour eux du vent qui hurle dans les arbres, qui fasse battre les volets mal fermés, qui siffle sous les portes. Il faut du tapage qui sera leur complice, les garantira, les secondera. Parfaitement. Puis quand il fait mauvais au dehors, on s'enferme dans son lit, la tête dans les oreillers, le nez sous la couverture, on n'entend rien. Mais par une nuit comme celle-ci, il faudrait être fou pour entreprendre en bandit la moindre affaire. Martin Dumas conclut. Donc je crois que nous perdons notre temps. Ils ne viendront pas. Il cessa de parler. Nous n'osions nous prononcer la moindre parole. Mais nous sentions, Prosper et moi, que le roi des détectives ne se trompait pas. C'était partie remise. Dans tout ceci, reprit un peu après Martin Dumas, le plus heureux de nous, c'était encore Philippe. Ah, mais en effet, qu'est devenu Philippe, demandai-je. Oh, le pauvre garçon a été assez touché dans la bataille, un coup apporté, sans être blessé, mais fort heureusement. Il est cependant endolori. Il voulait néanmoins se trouver parmi nous ce soir pour l'assassinat, mais je lui ai donné l'ordre de rentrer à Paris, de se reposer 2 ou 3 jours, et de ne reparaître devant moi que complètement rétabli. Ah, c'est Prosper qui a pris sa place. C'est peut-être meilleur, mais je crois que les gens que nous combattons savent que Prosper est mon second plus immédiat, si je puis ainsi dire, celui que j'associe plus volontiers à mes expéditions. Et il l'honore d'une haine aussi forte que celle dont on me gratifie parmi eux. Puis Martin Dumas, encore une fois, garda le silence. Et nous nous tenions étendus à côté de lui dans nos sacs de caoutchouc, roulés dans nos pèlerines, au chaud et toutefois caressés par l'air frais chargé de senteurs délicieuses. Nous ne bougions pas. Prosper, tout bonnement, s'était allongé sur le dos, la tête à demi hors d'un capuchon, un œil découvert et une oreille tendue. Moi, je me tenais sur un côté, ma tête reposant sur mon bras replié. Martin Dumas restait étendu à plat ventre. Son capuchon lui couvrait la tête, mais il l'avait relevé sur le front pour qu'il ne lui cachât point les yeux. En gonflant ce capuchon, il semblait avoir encadré sa tête dans une fantastique conque marine, formant un merveilleux cornet acoustique. Nous savions que Martin Dumas n'avait nullement besoin de cela pour entendre ce que personne n'aurait perçu, de même que sans lorgnette, il voyait ce que les meilleures jumelles à prisme grossissant ne découvraient même pas. Tout à coup, il étendit le bras. Bougez plus, fit-il. Parlons plus. Immobile, en silence. Il se leva sur les coudes, puis sur les avant-bras, lentement, de façon à ne pas se montrer. Il passa la tête à la hauteur des hautes herbes. Puis il regarda dans le lointain. Il écouta. Oh, viens, dit-il. Oh, si c'est eux. Ils sont moins forts que je le pensais, ou ils nous prennent pour leurs plus bêtes que nous ne sommes en réalité. Martin Dumas écouta encore. Ils sont à bicyclette, fit-il. Oh, je ne les vois pas. Pas encore, à cause des haies entre lesquelles serpente la route, mais je les entends venir. Prosper et moi, nous tendions vainement les oreilles. Vainement, nous cherchions à percer la nuit du regard. Oh, les voilà! Fit Martin Dumas. Oh, nous allons les voir apparaître au tournant. En effet, peu après, à un détour autant qu'on pouvait l'affirmer, nous vîmes apparaître quatre bicyclettes. Un allait en avant, bien en avant. Deux autres suivaient. Le quatrième était séparé des autres et semblait aller d'une vitesse beaucoup moins rapide. Si celui qui roulait en avant devait frayer la route, se rendre compte de la situation, celui qui arrivait avait certainement la mission de veiller sur l'ensemble et préparer la retraite. On les apercevait maintenant très distinctement arrivés. Oh, ce sont peut-être de paisibles touristes, dis-je à Martin Dumas, de modestes ouvriers, tout aussi bien des particuliers aimant le plein air la nuit ou voulant atteindre un refuge au loin avant le jour. Nous le verrons bien, les silences. Encore une fois, il nous dit silence et immobile. Les bicyclistes, arrivés à une vingtaine de mètres de la maison, sautèrent à bas de leur machine. L'un d'eux fut chargé de la garde des vélos. Les trois autres, silencieusement, s'avançaient vers la maison. Évidemment, ces hommes disciplinés, hardis, habiles, savaient quel rôle leur était réparti dans cette opération. Il manœuvrait sans hésitation, d'une façon presque militaire. La maison semblait dormir. Rien ne bougeait, aucune lumière n'apparaissait à travers les volets. Il devait être certain que les habitants de cette rieuse villa, sous le charme de cette nuit calme et douce, dormaient profondément. Cependant, comme l'avait dit Martin Dumas, la nuit était trop belle pour faciliter le coup de main. Pendant un moment, Martin Dumas put croire que ces hommes allaient commettre cette faute. Cela vraiment l'eût fort étonné, car ces hommes, il les jugeait très habiles en leur sinistre métier, très maîtres de leur art criminel. Et il les regardait manœuvrer ainsi dans la nuit claire avec la plus grande attention. Les trois hommes, résolument, s'étaient approchés de la villa. La villa se trouvait, nous le savons, sur le bord de la route. Une grille de fer la séparait du chemin et formait l'enclos du jardin qui, de l'autre côté, plus fourni d'arbres semblant un petit parc, s'étendait jusqu'à la Seine. Dans cette grille, une porte de fer était percée, une petite porte permettant aux piétons de passer sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le portail par où les voitures sortaient. Mais cette petite porte, tenue seulement par un loquet durant le jour et fermée à clé pendant la nuit, ne s'ouvrait pas sans faire résonner un timbre dans le jardin et sans mettre en vibration une sonnerie électrique dans la maison. Les trois hommes étudièrent un instant la grille de fer. Elle était encastrée dans un petit mur entre de gros piliers de maçonnerie et surmontée de pics en fer de lance. Il était dangereux, difficile de tenter de la franchir. Les trois hommes ne s'arrêtèrent donc pas à cette idée. Ils revinrent à la porte de la grille et ils se mirent en mesure de l'ouvrir. À l'endroit où nous nous tenions cachés, nous pouvions les voir manœuvrer, mais sans cependant rien comprendre leurs mouvements. Moi, du moins, car Martin Dumas et Prosper semblaient les suivre, les deviner, pour ainsi dire, dans le moindre de leurs gestes. Tout à coup, la porte de fer s'ouvrit doucement, tourna sans grincer sur ses gonds, cependant rouillé. Le timbre, qu'on entendait de fort loin, ne résonna pas, et la sonnerie électrique, qu'on eut également perçue dans la nuit, ne donna pas l'alarme. « Bien fait !» dit doucement Martin Dumas à Prosper. « C'est bien !» Deux hommes pénétrèrent dans le jardin. Un troisième demeura sur le pas de la porte, sur la route. C'était le veilleur. Les deux autres allaient accomplir leur sinistre besogne.